Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir, tout en demeurant dans cette attitude de recueillement. Si Jésus venait à quitter la barque de nos vies, j'aimerais vous assurer que ça serait le naufrage pour nos barques. Ça serait la catastrophe. Si Jésus arrivait à partir de nos vies, ce serait la mort. Ça serait la chose la plus horrible et la plus terrible qui soit. Alors faisons tout pour qu'il demeure dans la barque de nos vies. Faisons tout pour qu'il reste au cœur de notre existence. Alors seulement nous accomplirions notre raison d'être ici-bas. Seigneur, comme nous venons de le chanter, nous avons tant besoin de toi. Ce serait la chose la plus dramatique, la plus tragique. La chose la plus affreuse et la plus horrible, si un jour, par notre vie des désobéissances et des rébellions, tu quittais la barque de nos vies. Seigneur, nous sommes ce que nous sommes parce que tu es dans nos vies. Nous pouvons avancer dans la vie malgré les différentes tempêtes qui soufflent, parce que tu es avec nous. Nous pouvons aller de gloire en gloire, parce que nous nous reposons sur ta parole et parce que tu nous portes, Seigneur, dans ta main puissante. Alors aide-nous à réaliser, Seigneur, la nécessité de rester attaché à toi, de tout faire pour ne pas te perdre, Seigneur, en cours de route, car nous vivons des temps difficiles, des temps marqués par la séduction, des temps, Seigneur, où notre monde est traversé par toutes sortes de crises, où ton Église, semblable à une barque en haute mer, est ballottée, tangue de plus en plus sous la pression de toutes sortes de tempêtes, Seigneur, sous la pression de faux enseignements, d'hérésies de tout genre. Et dans une époque pareille, dans un temps pareil, nous avons besoin de rester attachés à toi plus que jamais et d'avoir nos yeux constamment fixés sur toi. Nous avons besoin de nous laisser porter par ta parole, Seigneur, de continuer à caresser, à entretenir en nous cette espérance vivante, qu'un jour de nos propres yeux nous te verrons, qu'un jour lorsque la trompette sonnera, alors nous serons parmi ceux qui seront enlevés pour aller te rencontrer sur les nuées, Seigneur. Mais en attendant, nous te demandons de nous aider, Seigneur, à ne pas nous laisser distraire par toutes sortes de choses, mais avoir nos yeux fixés sur toi, à mener une vie d'obéissance, peu importe le prix à payer. Merci pour tout. Parle-nous ce matin. Bénis ton serviteur, revêt-le de ta puissance. Répands sur lui l'onction de ton esprit. Embrase-le de ta flamme, de la flamme d'en haut, afin que ce qui sortira de sa bouche, Seigneur, soit des paroles porteuses de vie, des paroles enflammées, flamboyantes, qui vont embraser la vie, Seigneur, le cœur de ton peuple. Merci pour tout. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous allons acclamer la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni, comme vous le savez, le dimanche prochain, nous aurons donc un culte spécial, non seulement le dimanche prochain, c'est-à-dire le dimanche 14, mais aussi le dimanche 21, nous aurons à honorer des couples ayant accompli un certain nombre d'années. Donc ça veut dire que ces activités nous imposent un thème, vous voyez, et des thèmes, évidemment, qui vont orbiter, tourner autour du mariage, autour de la famille, et puisqu'il en est ainsi, donc il n'est pas du tout question que j'amorce une série de prédications pour les interrompre deux fois. Pas du tout. Donc aujourd'hui, le Seigneur va nous conduire quelque part, comme il le fait souvent, nous conduire à la rencontre d'un homme qui nous est présenté à travers l'Écriture comme étant un des héros de la foi, un homme qui est arrivé, qui est entré, qui est monté sur la scène biblique de manière brusque et qui va aussi la quitter de manière tout aussi brusque. Il s'agit donc du prophète Élie. Nous sommes dans le premier livre de Rois et notre thème de ce matin est être là où Dieu nous veut. Alléluia. Si vous posiez la question au Seigneur ce matin, Seigneur, où dois-je, où devais-je être? Eh bien, il vous dira ici, à l'église. Alléluia. C'est-à-dire ici, dans sa maison. Être là où Dieu nous veut. Et nous allons voir très rapidement les grâces qui sont liées au fait d'être là où Dieu nous veut et au moment où il nous veut. 1 roi, chapitre 17, le thème est apparu? Non? 1 roi, chapitre 17, à partir du verset 1er. Élie, le Tishbite, et la version grecque ajoute le Tishbite de Tishbé, l'un des habitants de Galade, dit à Acab, le roi d'Israël, du royaume du Nord, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, donc adressée à Élie, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Il partit et agit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, reste-y. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Élie se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. » Puisqu'il a quitté le Kérit, donc vers l'est, pour aller sur la côte méditerranéenne, donc ça a été un fameux trajet, et sous le soleil, il avait donc forcément soif. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Mais voici en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. » Quelle perspective triste. Élie lui dit, « Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'emporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. » Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais d'emblée vous dire que le Dieu qui avait parlé à Élie, qui lui avait donné des instructions claires dans un contexte historique et social particulier, à un moment particulier, eh bien ce Dieu-là, même si Élie n'est plus de ce monde, ce Dieu-là est encore parmi nous et sa puissance n'a pas changé. Il est donc important que nous sachions que le Dieu qui nous rassemble ce matin reste le même. Ceux qui l'ont servi, ceux qui ont expérimenté sa puissance, ceux qui ont eu à le rencontrer, ont vécu de choses extraordinaires, et puis un jour, Ils sont arrivés au terme de leur voyage ici-bas et sont passés dans l'éternité. En partant dans l'éternité, ils n'ont pas amené avec eux toutes les provisions de Dieu. Ils sont partis seuls. Ils sont entrés dans la gloire. Mais ce Dieu-là agit encore aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Être là où Dieu nous veut. Non seulement là où il nous veut, mais aussi au moment où il nous veut. Voilà comment, frères et sœurs, vous et moi pouvons expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Mes amis, il est une chose que nous devons savoir, c'est que la provision de Dieu est intarissable, elle est inépuisable. Alléluia. Et cette provision se manifeste dans notre vie lorsque nous sommes là où il nous veut. Peu importe le lieu, peu importe l'endroit, de lors que nous sommes dans sa volonté, mes amis, nous pouvons nous attendre à de grandes choses de sa part. Et gloire à Dieu. Car lorsque, par l'obéissance, mes amis, à sa parole, nous sommes dans sa volonté, nous pouvons alors accomplir les œuvres bonnes, merveilleuses et glorieuses qu'il a prévues d'avance. Lorsque nous sommes dans sa volonté, lorsque nous sommes quelque part où il nous veut, nous pouvons alors, mes amis, marcher dans les voies qu'il a tracé bien avant que nous venions sur cette terre. Car encore une fois, mes amis, Dieu n'a pas besoin que nous arrivions là où il nous a envoyés pour qu'il vienne enfin nous y rejoindre. Quand tu nous demandes d'aller, eh bien, une chose est sûre, c'est qu'il nous a déjà précédés. Gloire à Dieu, alléluia. Vivre dans l'obéissance à sa parole, dépendre entièrement et totalement, mes amis, de Dieu, voilà ce que ce Dieu-là attend de chacun de nous. Et si nous vous prêchons dimanche après dimanche la parole de Dieu, et si nous vous encourageons, mes amis, à rester attachés à cette parole, à vivre en demeurant dans cette parole, eh bien c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de demeurer dans la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'expérimenter sa puissance que de demeurer dans sa volonté. Nous cherchons tous, et nous le savons mieux que quiconque, nous cherchons tous à prospérer à tous égards. Qui ne le chercherait pas? C'est une aspiration tout à fait légitime dans chacun de nous. Nous cherchons à être bénis d'une manière ou d'une autre, à expérimenter la puissance de Dieu dans nos besoins de tous les jours. Nous aspirons à voir ce Dieu-là rencontrer nos besoins, quel que soit le lieu ou l'endroit où nous nous trouvons. Voyez-vous, oui, nous voulons avoir une vie qui bourgeonne, une vie qui fleurit, une vie qui porte des fruits dont nous nous réjouirons et dont les fruits réjouiront les autres. Nous voulons avoir une vie fructueuse, une vie remplie de toutes sortes de grâces. Et tout cela, mes amis, est absolument légitime. Dieu, comme la Bible dit, nous a bénis de toute bénédiction en Christ et ce dans le lieu céleste. Aspirer à tout cela est quelque chose de légitime. Il n'y a pas de mal à aspirer à voir une vie bénie, une vie épanouie, une vie fructueuse, une vie qui bourgeonne de bénédictions, une vie qui fleurisse. Voyez-vous, cependant, pour avoir une telle vie, plus épanouie, plus victorieuse, plus fructueuse, une vie qui bourgeonne, qui fleurit, etc. Pour avoir une telle vie, mes amis, nous devons apprendre à être là où Dieu nous veut. Et au moment où il nous veut, alléluia, et gloire au Seigneur. Et être là où Dieu nous veut implique donc une vie d'obéissance. Et chaque acte d'obéissance est appelé à nous coûter quelque chose. Il y a un phénomène très inquiétant auquel nous assistons aujourd'hui, qui est du reste une des caractéristiques de la période dans laquelle nous nous trouvons. C'est ce que j'appelle le clochardisme spirituel. Les gens, dans leur instabilité, les gens dans leur recherche je ne sais de quelle bénédiction, eh bien, ont difficile à se fidéliser quelque part.
Ils sont partout. Ils courent après des prophètes. Ils courent après des évêques, que sais-je. Vous voyez? Et ce phénomène est plus qu'inquiétant. Parce que ça amène les gens à avoir une vie superficielle. Une vie qui ressemble à une feuille morte. Et vous savez tous, le sort réservé à une feuille morte lors d'une tempête, elle finit toujours par être emportée. On va chercher les bénédictions à gauche, à droite. Les bénédictions ne se trouvent pas dans un lieu quelconque, mais plutôt dans une personne. Oh, alléluia. Et lorsque nous sommes là où le Seigneur nous veut, au moment où il nous veut, peu importe ce qui nous environne, peu importe ce qu'il y a autour de nous, peu importe le contexte, eh bien nous finirons par expérimenter sa gloire. Oui, être là où Dieu nous veut, c'est être là où il nous a fixé un rendez-vous. Alléluia. Et lui qui s'appelle fidèle et véritable, finit toujours, mais alors toujours à honorer ses rendez-vous. Il n'est pas comme l'homme. Combien, regardez à votre propre vie, combien quelqu'un vous avait donné un rendez-vous? Combien de filles avaient reçu des rendez-vous pour le mariage? Voyez-vous, et puis un jour, elles ont été déçues. Combien d'hommes et de femmes ont reçu des promesses? Ces promesses étaient des rendez-vous pour un boulot, pour être engagé, pour une promotion, mais cela n'a jamais marché. Mais il y en a un, quand il vous donne rendez-vous, et que vous allez dans ce lieu de rendez-vous, il finira toujours par vous rencontrer et par honorer ce rendez-vous-là. Mes amis, encore une fois, vous ne pouvez fleurir, vous ne pouvez bourgeonner qu'en restant là où le Seigneur vous a placé. Peu importe le lieu, peu importe l'endroit où il vous a placé, où il vous a conduit, ça peut être dans un désert. Ne regardez pas au désert. Ne dites pas, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire dans ce désert? Comment vais-je manger? Je ne peux pas cultiver. Ça peut être, mes amis, dans une vallée de la persécution, dans un lieu où personne ne t'aime, dans un lieu où tu es exposé constamment à la persécution, à l'affliction, mes amis, à l'humiliation. Tu es constamment humilié. Tu es entouré de gens qui sont beaucoup plus instruits que toi, des gens, eh bien, qui sont là parce qu'ils ont été recommandés par leur oncle, par leur cousin, qui ont des fonctions politiques. Et toi, tu arrives là comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Tu regardes à gauche, à droite, tu te dis, mais comment puis-je prospérer dans un lieu pareil? Je n'ai personne qui puisse me soutenir. Peu importe le lieu où le Seigneur t'envoie, ça peut être sur des chemins rocailleux, où il y a des cailloux qui te blessent, où il y a des chardons, des épines qui te font mal. Ça peut être un passage dans de sombres tunnels, peu importe. Si c'est Dieu qui t'envoie là, il saura prendre soin de toi. Gloire à Dieu. Il saura te nourrir. Il te fera prospérer, même si tu es entouré d'épines et de ronces. Il te fera prospérer, même si tu es sur une terre aride, car avec lui, tout est possible. Quand nous sommes dans sa volonté, alors tout devient possible. Gloire à Dieu. C'est une des grandes leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de cet homme, Élie, du prophète Éliaou, qui veut dire l'Éternel est mon Dieu. Homme de la même nature que nous. Mais homme qui a appris à faire confiance au Seigneur et à sa parole, et qui a vécu dans la soumission à la parole du Seigneur et à la personne de Dieu, et qui a fini par expérimenter de grandes choses. Allons à la rencontre de cet homme, et essayons de voir comment cet homme se retrouvait là où Dieu le voulait. Grâce à son esprit d'obéissance et de dépendance à Dieu. Le Seigneur l'envoie d'abord au torrent de Kérit, en Transjordanie, en face du Jourdain vers l'est, vers le Levant. Et puis ensuite, Il envoie chez une veuve de l'autre côté sur le littoral méditerranéen. Et tout ça dans un contexte très difficile de famine, de disette. Voyez-vous, regardez comment Dieu agit. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous n'auriez pas envoyé votre serviteur dans un endroit où il se serait retrouvé seul. Vous auriez cherché un lieu calme où il pourrait manger à sa faim, oui ou non? Qu'est-ce que vous auriez fait dans un contexte de disette, de famine, de misère absolue? Pas de pluie, rien du tout. On ne sait pas planter ni moissonner. Vous auriez envoyé votre humble serviteur, vos fidèles serviteurs, auprès d'une veuve, dans un contexte comme celui-là. Mes amis, les voix du Seigneur sont au-dessus de nos voix. Il a sa manière d'agir. C'est pourquoi c'est une chose terrible que de vouloir enfermer Dieu dans une sorte de boîte, de développer ou d'établir des paradigmes stricts selon lesquels, dans telle situation, il n'agit que comme ça. Dans telle autre situation, il n'agit que comme ça. Avoir des préjugés. Il est souverain dans sa manière d'agir. Il finit toujours, mes amis, par nous surprendre. C'est ce qu'il veut faire. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, persévère. Persévère. Ne dis pas, oui, mais lui, Dieu a fait ceci, elle, pour elle, Dieu a fait cela. Tu n'es ni elle, ni lui. Tu es qui tu es. Tu es particulier. Et Dieu voudrait agir de manière particulière. Il voudrait te démontrer de quoi il est capable. Il t'aime. Il a un plan, pour ta vie, non pas pour les autres. Un contexte difficile. Voilà que Dieu parle à son serviteur. Il lui dit, pars d'ici. Il adresse ces mots à Élie. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et puis il ajoute, écoutez bien, j'ai ordonné, non pas un fermier, non pas un homme d'affaires, non pas un riche marchand de s'occuper de toi, non. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir, de prendre soin de toi pendant tout le jour où tu resteras près du torrent de Kérit. Et la Bible nous dit, non seulement le Seigneur s'est contenté de parler, lorsque Élie obéit à cette parole, sans se poser, comme nous allons le voir, des questions, sans se faire toutes sortes de réflexions, de supputations par rapport à la parole du Seigneur, la Bible nous dit, les corbeaux au verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir, et Élie buvait de l'eau du torrent. Les corbeaux, ces oiseaux charognards, vont être utilisés par Dieu pour prendre soin de son serviteur Élie. Celui qui a créé Élie à son image, à sa ressemblance. Celui que Élie a servi, comme il a dit lui-même, au roi Acab, l'Éternel devant qui je me tiens, ce Dieu-là est le même qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est le même Dieu qui est entré un jour en relation avec toi. Alors, tu peux aussi expérimenter des choses grandioses, merveilleuses, formidables, extraordinaire, alléluia. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Mes amis, arrêtons-nous un moment à cette parole du Seigneur. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Comment imaginer un seul instant que les corbeaux, qui sont des grands amateurs, mes amis, de viande, parce que ce sont des charognards, ou quelquefois il y a des gros corbeaux qui se nourrissent de petits, comme des rats et des histoires comme ça. Comment imaginer que ces corbeaux, donc comme je le dis, qui sont des grands amateurs de viande, puissent apporter leur repas favori au prophète Élie au lieu de le dévorer eux-mêmes? Vous pouvez comprendre ça? Avec Dieu, il n'y a rien à comprendre. Avec Dieu, c'est simplement croire. Gloire au Seigneur. Non seulement ce sont des oiseaux qui affectionnent la viande, mais ces oiseaux étaient également considérés comme des animaux impurs que le peuple d'Israël ne devait pas consommer. Deutéronome 14, 14. Voyez-vous, il y a des choses qu'Israël pouvait manger, des bêtes qu'il pouvait consommer, des animaux qu'il pouvait manger, mais il y avait aussi des animaux qui étaient déclarés, qui étaient considérés comme impurs. Et le corbeau était de ceux-là. Voyez-vous? Et face à cette parole, comment Élie réagit-il? Et la Bible nous dit, il partit, sans trop se poser de questions, et agit selon la parole de l'Éternel. Il alla donc s'établir près du torrent de Kérit. Mes amis, Élie a obéi sans discuter. Et finalement, le Seigneur a honoré sa foi. Finalement, étant là où Dieu le voulait, étant là où Dieu lui avait fixé rendez-vous, eh bien, Dieu a fini par honorer la foi, la confiance qu'Élie lui a manifestée en obéissant simplement à sa parole. En demandant à Élie d'aller au torrent de Kérit, Dieu lui a donc fixé un rendez-vous là et pas ailleurs. Dieu est précis, voyez-vous. Et quand il parle, c'est toujours de manière claire. Il ne parle pas en rébus ou jouer au Scrabble, où on met les lettres et puis on essaie de deviner, pas du tout. La parole de Dieu est claire. Il n'essaye pas de manipuler les gens. Tout est clair avec lui. Et l'homme est parti. En lui fixant rendez-vous au torrent de Kérit, le Seigneur n'a pas attendu qu'Élie arrive, le premier, pour enfin l'y rejoindre. Pas du tout. En lui disant « pars », eh bien le Seigneur l'avait déjà précédé. Quand il arrive, eh bien, il est là où le Seigneur le veut, il est là où le Seigneur lui a donné rendez-vous, et comme celui qui lui avait donné rendez-vous s'appelle fidèle et véritable, et qu'il a la capacité, qu'il a la vertu, qu'il a la puissance d'accomplir sa parole, eh bien, quelque temps après, le miracle est devenu une réalité pour notre cher frère Élie. Le matin suivant, des corbeaux sont venus lui apporter de la viande. On peut s'étonner un tout petit peu, on peut voir Élie louer le Seigneur, c'est dire, il n'y a que toi pour faire des choses comme ça. Ces oiseaux auraient pu consommer toute cette viande. Et pourtant, sur tes instructions, ces oiseaux ont obéi. Ils m'apportent le pain, ils m'apportent de la viande. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Le Seigneur est précis. Pas ailleurs, mais en cet endroit précis. Nous voyons donc, c'est lorsque Élie obéit, il va là où le Seigneur lui a fixé rendez-vous. Il va là où Dieu le voulait. Eh bien, le Seigneur va déclencher le miracle. Il va organiser la livraison de colis de pain et de viande chaque matin et chaque soir. Alléluia. Voilà le premier envoi de colis avant Amazon et Zalando. Peut-être Jeff Bezos, le patron d'Amazon, s'est inspiré de cette histoire. Vous voyez? Ici, la livraison est gratuite. Il est arrivé, le Seigneur ne lui a pas dit à quel moment les corbeaux allaient venir. L'homme s'est dit, je sais en qui j'ai cru. Je connais qui est celui qui m'a dit, va au torrent de Kérit, et moi, j'ordonnerai aux oiseaux de prendre soin de toi. Il ne s'est pas posé de questions. De quel côté allaient venir les corbeaux? Du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest? C'était pas ça son problème. Lui n'avait qu'à obéir. Et c'est ce qu'il a fait. Tout a été rendu possible. Mes amis, par l'obéissance à la parole du Seigneur. Le Seigneur a transformé ces oiseaux charognards en livreurs de colis divins. Formidable. Même s'il doit faire partir quelqu'un des États-Unis pour vous apporter le colis, il le ferait parce que celui qui vous a demandé d'être là où vous êtes. Peu importe d'où viendrait le colis, il finira par arriver. N'aie pas peur. Ne te dis pas, Seigneur, j'aurais aimé être là-bas. Souvent, c'est la cupidité, la convoitise qui nous pousse à regarder aux autres et à se dire, ah, lui est là-bas, c'est parce qu'il est là-bas qu'il prospère. Je vois qu'il n'y a que là où il y a les facteurs qui puissent contribuer à mon épanouissement. Non. Dieu l'a mis là-bas. C'est parce que Dieu l'avait envoyé là-bas qu'il prospère. Toi, il t'envoie à l'Est. Ne t'en fais pas. Tu es peut-être seul. Tu t'es dit, tu regardes en gauche à droite, tu dis, mais Seigneur, je ne vois pas comment tu vas me bénir. Je ne vois pas comment, Seigneur, tu vas rencontrer mes besoins. Il y a personne autour de moi, ce n'est pas un problème. Hommes ou animaux, ils sont tous des outils dans sa main pour bénir son peuple. Pour bénir tous ceux qui marchent par la foi, alléluia. Gloire à Dieu. Voilà des corbeaux transformés en livreurs de colis divins. Il n'y a que le Dieu de la Bible pour faire pareille chose. Mon frère et ma sœur, prends la décision d'obéir à la parole. N'essaye pas de marcher par la vue. Ne regarde pas et puis ne dites pas, enfin, là je vois qu'il y a, c'est un pays où coule le lait et le miel. Là il y a le vert pâturage. Je peux y aller. Tu peux être dans la disette tout en étant dans un lieu où il y a l'abondance. Parce que tu n'es pas là où Dieu te veut. Voyez-vous. Aujourd'hui, malheureusement, nous marchons par la vue. Nous marchons selon des circonstances favorables. Moi, je le vois. Ceux qui s'élèvent, tous ces jeunes pasteurs que le Seigneur appelle. Merci au Seigneur d'appeler de nouveau de jeunes qui s'élèvent. Tous voudraient s'installer à Kin. Au point Kinshasa est saturé d'églises. Vous êtes d'accord avec moi? Ah mais oui. Il y a une église ici, vous venez vous installer à côté. Est-ce que vous pensez que le Dieu qui est ici ne pouvait pas amener ses âmes ici? Qu'il faille aller faire venir quelqu'un d'autre pour qu'il commence l'église juste à côté? Au point de créer des tensions inutiles. Non, il y a quelque chose qui attire les gens à Kinshasa. Vous savez ça? Ah oui, c'est la capitale. C'est là où la manne tombe constamment. Vous pouvez rencontrer les parlementaires, lui balancer une prophétie, et puis lui dire, voilà, pour que cette prophétie s'accomplisse, il faut 1 000 $, et vous aurez 1 000 $. Mais si vous êtes à Nyuki, vous allez manipuler qui? Voilà. C'est comme ça les prophètes, vous ne le trouvez qu'ici. Rares sont des prophètes, des véritables prophètes, qui sont dans les églises, parce qu'être prophète ne veut pas dire devenir un électron libre. Je reviendrai là-dessus, après la série d'enseignements sur l'église. Nous parlerons de la prophétie et du ministère de prophète. Aujourd'hui, Les gens se font entourer des prophètes. Il y a des femmes, surtout les femmes. Vous aimez beaucoup des prophètes. Bamama Bolamuka. Réveillez-vous. Il y en a qui ont des prophètes comme des sacs à main. Quand vous voyez la femme, son sac à main est là. Ah, Dieu me dit, non, nous devons aller à gauche. Oh, brakachaka, ok, allons à gauche. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Tout homme, écoutez-moi bien, peu importe sa carrure morale ou spirituelle, qui vous entraîne dans une vie de dépendance à sa personne, ne vient pas de Dieu. Dieu veut que nous soyons matures. Dieu veut que nous croissions à tous égards, que nous arrivions à un point où nous prenons des décisions et aussi où nous aidons les autres. C'est parce que les gens aiment le péché. Parce que souvent ces prophètes ferment les yeux sur le péché, eux-mêmes étant dans le péché. Si ce n'est pas le péché d'immoralité, c'est le péché d'orgueil. La plupart nous considèrent, nous les pasteurs, comme des gens charnels. Ah! À la bonne, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction prophétique. Dieu, d'ailleurs, Dieu me dit ceci. Et vous aimez ça. Et résultat, avec autant d'églises dans une ville comme Kinshasa, l'immoralité est en train d'atteindre des proportions plus qu'inquiétantes. Voilà. Ce n'est pas rare d'apprendre que telle personne a eu le poste de ceci ou de cela, parce qu'il est sorti ou elle est sortie avec telle autorité. C'est de plus en plus récurrent. Nous devons dénoncer ça. L'église est le lieu où nous devons prêcher la sainteté. C'est l'église, le lieu où les gens doivent venir pour être changés, transformés, métamorphosés. Je ne peux pas vous dire des choses agréables à vos oreilles. J'aurai des comptes à rendre à Dieu. Ça peut paraître dur, mes amis, mais je n'ai pas d'autre choix que de vous réveiller, car la nuit vient, mais aussi le jour s'approche, où il reviendra. Et lorsque la trompette sonnera, où seras-tu? Voyez-vous? Élie se retrouvait là, parce que Dieu le lui avait demandé. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, eh bien, nous pouvons vivre de grandes choses. Élie a été dans la volonté de Dieu. Il a eu confiance dans la parole du Seigneur. Il a eu foi dans le rhéma sorti de la bouche du Seigneur. Et le résultat, c'est qu'il a expérimenté de grandes choses. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, quand nous nous attendons à Dieu, eh bien, il finit toujours par rencontrer nos attentes, par nous élever d'une manière ou d'une autre, sans utiliser des voies détournées, sans utiliser la corruption ou la flatterie ou la manipulation. Pas du tout. Il peut nous élever, il peut nous bénir. Alléluia. Dieu parle à Élie. Pars d'ici. Dirige-toi vers le levant, vers l'est. Et va t'établir près du torrent de Kérit. Élie obéit. Élie prend la parole et puis se laisse porter par la parole. Élie n'a pas fait de la parole du Seigneur l'objet de toutes sortes de réflexions, d'analyses logiques et cartésiennes, des réflexions du genre, mais comment un oiseau charognard qui affectionne tant la viande peut-il m'apporter cette même viande afin de me nourrir? Il n'a pas laissé son intelligence le distraire. Il se serait dit, mais enfin, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Voilà. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? C'est comme si le Seigneur vous demandait d'aller chercher un loup pour s'occuper de vos agneaux. Hein? Est-ce possible? C'est comme si le Seigneur vous demandait d'aller chercher un lion pour garder vos chèvres. Ben, humainement parlant, vous direz, mais c'est pas possible. Le jour où le lion arrive, le lendemain, il n'y aurait plus de chèvres. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Ça, c'est la logique humaine. Ça, c'est l'analyse. Mes amis, logique. Il ne s'est pas laissé distraire par tout cela. Il connaissait très bien son Dieu. Puisqu'il a dit, ben j'obéis. Ce sont des animaux qui affectionnent la chair, qui aiment la viande. À leur repas, la viande est toujours présente. De temps à autre, ils peuvent manger un peu de fourrure, ces corbeaux, mais c'est toujours la viande qu'ils affectionnent. Mais peu importe, lui m'a dit, va. Je veux ordonner, pas aux hommes, pas du tout, mais à des corbeaux, de t'amener de la viande et du pain. Eh bien, je vais. Il est parti. Résultat, il va vivre le miracle. Alléluia. Plus tard, ça sera pareil. Lorsque le torrent est à sec, il n'y a plus d'eau, de nouveau le Seigneur lui parle. C'est ce qui est formidable dans cette histoire. Au début de chaque expérience d'Élie, il y a la parole du Seigneur et l'obéissance d'Élie. Il ne se pose pas de questions. Il agit selon la parole de Dieu, mes amis. Et parce qu'il a obéi à la parole du Seigneur, parce qu'il a été là où Dieu le voulait, alors Élie a expérimenté de grandes choses. Plus tard, lorsque le torrent est à sec, il n'y a plus d'eau, eh bien, ça sert à quoi d'avoir les corbeaux qui viennent vous apporter à manger le pain et la viande si vous n'avez plus d'eau à boire? Vous risqueriez de mourir, n'est-ce pas? Le torrent est à sec, l'homme attend. Il sait que celui qu'il avait amené au torrent de Kérit, eh bien, était avec lui là-bas. Il ne l'a pas amené là-bas pour le laisser seul et puis aller chercher les corbeaux pour en faire des livreurs de viande et de pain, mais il savait qu'il était toujours avec lui. Et de nouveau, la Bible nous dit, alors la parole du Seigneur, verset 8, la parole du Seigneur lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, reste-y, et il ajoute, voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'y ai ordonné. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir, n'est-ce pas? Et maintenant, cette fois-ci, il dit, j'ai ordonné à une veuve. Dieu n'a pas parlé à la veuve en lui disant, voilà, tel jour à telle heure, je vais t'envoyer quelqu'un, etc. Cette femme, encore une fois, nous voyons, mes amis, que Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Cette femme ignorait que ce jour-là, en sortant et en se dirigeant vers la porte de la ville pour chercher du bois, eh bien, elle accomplissait sans le savoir un décret divin. Oh, alléluia. Mon frère, ma sœur, sois calme, sois serein. Dieu sait ce qu'il fait. Aie tes regards fixés sur lui. N'essaye pas de secouer le cocotier. Tu t'attendrais à ce que des noix de coco tombent, mais malheureusement, ça peut être autre chose qui pourrait tomber sur toi et t'écraser. Attends le moment du Seigneur. Alléluia. Le moment venu, il utilisera quelqu'un, sans que la personne ne le sache, pour aller chercher du bois. Mais en allant chercher du bois, ça serait pour te rencontrer et devenir une bénédiction pour toi. Gloire au Seigneur. Élie obéit simplement, sans se demander comment une veuve, en période de sécheresse, en période de pénurie, en période de disette et de famine, comment une veuve, mes amis, allait-elle prendre soin de lui? Allez, entre nous. Est-ce que vous auriez, comme je vous ai posé la question tout au début de ma prédication, est-ce que vous auriez agi ainsi? Envoyez votre serviteur chez une veuve. Quand on sait qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. Quand on était une veuve, quelquefois, on était abandonné. Ce fut le cas, cette femme devait se débrouiller seule. Elle avait un peu de farine, un peu d'huile. Elle est allée chercher du bois parce que pour elle, c'était la dernière quantité d'huile et de farine. Elle allait préparer et après, elle et son enfant allaient attendre la mort. Mais heureusement que Dieu est passé par là. Il est celui qui prend soin des malheureux.
Alléluia.
C'est parti. Il est celui qui prend soin des malheureux, qui donne à manger aux affamés. Élie est parti. Il ne s'est pas posé toutes ces questions. Il s'est dit, mais celui qui m'a nourri au torrent de Kérit est aussi capable de me nourrir à Sarepta, à partir d'une veuve. Peu importe ce que la veuve a. Non, je ne regarde pas la veuve, mais je regarde à celui dont la provision est toujours présente. Il m'a dit d'aller, eh bien j'y vais. Voilà, je vais. Il ne m'a pas donné le nom de la veuve. N'est-ce pas? Il devait y avoir plusieurs veuves. Il ne lui a pas donné le nom. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Obéis simplement. Va là où il te veut. Ne cherche pas ce qu'un prophète te donne le nom de la veuve qui va prendre soin de toi. Qui te donne le nom. Il peut le faire, attention. Il peut le faire. Mais s'il t'a demandé d'aller, obéis simplement. Élie a eu foi en Dieu et en sa parole. Il a pris le risque d'aller au torrent de Kérit. Il a pris le risque d'aller à Sarepta, chez une veuve. Et le résultat était plus que merveilleux. Il a expérimenté, lui, d'abord, le miracle. Et puis ensuite, il a fait expérimenter à la dame aussi le miracle, n'est-ce pas? C'est ça ce dont je parlais, bourgeonner, fleurir, porter du fruit dont nous nous réjouissons, mais du fruit qui permet aussi aux autres de se réjouir. Eh bien, nous pouvons bourgeonner, fleurir, porter du fruit et devenir une bénédiction pour les autres que dans la mesure où nous sommes là où Dieu nous a placés. Il a pris le risque. Il va expérimenter des choses extraordinaires. Mes amis, avant de terminer, nous devons savoir, nous devons connaître qui est celui en qui nous avons cru. Notre foi est proportionnelle à la connaissance de Dieu. Plus nous connaissons Dieu comme il faut, plus nous connaissons sa parole et nous la vivons, plus notre foi grandirait. Voyez-vous, la foi dépend de son objet. Et l'objet de notre foi, attention, c'est l'objet dans le sens grammatical du terme, il y a le sujet, il y a l'objet, n'est-ce pas? Ce n'est pas un terme méprisant, attention. Eh bien, l'objet de notre foi est important. Dans le cas d'Élie, et ça devrait être notre cas, l'objet de sa foi, c'est Dieu lui-même et sa parole. Alléluia. Quand on connaît qui nous demande de faire ceci, qui nous demande d'aller là-bas, nous n'aurions pas de problème d'obéir. Les gens ont des doutes parce qu'ils connaissent très mal le Seigneur. Les gens ont des doutes parce qu'ils marchent par la vue. Ils regardent là où le Seigneur les envoie, que voit-il un désert? Que voit-il quelques arbres qui sont complètement secs, sans aucun fruit? Que voit-il? Ben, il n'y a même pas d'eau. Mais de l'autre côté, il y a une oasis, il y a des palmiers, c'est la verdure, c'est la totale. Très bien. Alors il se dit, mais Dieu m'envoie là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Voilà le problème. C'est parce que nous le connaissons très mal. Quelqu'un qui connaît le Seigneur, quelqu'un qui est rempli de Dieu, qui connaît sa puissance, eh bien, et qui sait qu'il est appelé à marcher par la parole de Dieu, par la foi, ne se poserait pas ces questions. Il regarderait vers l'ouest, il verrait une oasis, des palmiers, la verdure, il verrait des animaux, etc. Il se dirait, mais oui, il y en a, mais ce n'est pas là que Dieu m'envoie. Il regarderait vers l'est, là où Dieu l'envoie, la sécheresse, des arbres secs. Il se dirait, mais de toute façon, je ne vis pas en fonction du contexte. Je ne vis pas, ma vie ne dépend pas de l'état des arbres. Ne dépend pas de la nature du désert. Ma vie dépend de lui. Mais parce qu'il me demande d'y aller, ah ben j'y vais. Voyez-vous? Mais souvent, c'est parce que nous le connaissons très mal. Et pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur une histoire que j'ai lue dans un livre qui illustre très bien ce que je dis, combien nous devons mieux connaître le Seigneur, mieux connaître sa parole, que notre foi est un risque, mais nous prenons ces risques que dans la mesure où nous sommes remplis de la connaissance de Dieu, dans la mesure où nous savons qui est notre Dieu, n'est-ce pas? On raconte l'histoire, très rapidement, l'histoire d'un homme qui devait faire 4 jours de marche dans un désert brûlant. Et comme il devait faire 4 jours dans ce désert brûlant, eh bien, il ne pouvait pas emporter suffisamment d'eau, sinon il eût fallu avoir des citernes sur sa tête pour pouvoir boire. Donc, il ne pouvait pas emporter suffisamment d'eau pour tout le voyage. Mais on lui assura qu'il trouverait un puits à mi-chemin dans ce désert-là. Et puis l'homme prit la route.
Attendez, un petit verre d'eau. Hein. C'est peut-être parce que je parle de cet homme qui voyage dans le désert. Voilà, parfait.
Eh bien, l'homme se mit en route, donc, et chemin faisant, il tomba effectivement sur un puits. Ah, il se réjouit, formidable. Il se dirigea vers le puits, il y avait là une pompe pour faire remonter l'eau. C'est comme ici chez nous, hein. Alors il alla actionner, il se dirigea vers la pompe, vers le puits et la pompe, pour actionner la pompe. Il actionna la pompe et il ne remonta que du sable. Ah, que faire? Et en se retournant, c'est alors qu'il vit un écriteau, quelque chose écrit sur un panneau, qui disait ceci: faites 2 pas à gauche et creusez sur une profondeur d'environ 50 centimètres. Et là, vous trouverez un bidon plein d'eau. Prenez ce bidon et allez verser l'eau du bidon dans la pompe pour l'amorcer. C'est-à-dire, il fallait utiliser l'eau du bidon pour aller faire fonctionner la pompe. Et vous aurez l'eau, et vous boirez comme vous voulez, mais quand vous aurez terminé, eh bien, n'oubliez pas de remplir à nouveau le bidon et de le remettre au même endroit pour le prochain voyageur. Et l'homme arriva effectivement, l'homme, donc, après avoir lu cet écriteau-là, eh bien, fit 2 pas à gauche, creusa, et il trouva le bidon. Gloire à Dieu! Il y avait de l'eau. Il prit le bidon. Suivez-moi maintenant. Quand il a actionné la pompe, c'est le sable qui est monté, non? Voilà. L'écriteur lui dit, il faut l'eau qui est dans le bidon pour amorcer la pompe. Maintenant, l'homme se trouve face à un problème. Première possibilité. Il dit, mais si cette eau que j'ai maintenant, dont j'ai besoin pour la route, je le mettais dans la pompe et que la pompe ne tournait pas, comment ferais-je pour poursuivre mon voyage? Je mourrais, non? Qui est-ce que la personne qui a écrit ces mots-là a-t-il voulu faire une blague de mauvais goût? Qui était-il la personne? La personne était-elle sérieuse en disant ça? Voyons, on se pose des questions. Si je mets de l'eau dans la pompe et que la pompe ne fonctionne pas, eh bien c'est fini, non? Je perds tout. Maintenant, j'ai le bidon. Dois-je aller avec ce bidon et cette eau pour le restant de mon voyage? Ou dois-je effectivement? Eh bien, contrairement à cet homme, Nous, nous savons qui a écrit ce qui constitue la base de notre foi. Nous ne pouvons pas nous poser la question de savoir, mais il dit que je mets tout l'eau dans la pompe, est-ce que la pompe... Non, s'il a dit, je le fais. Et même si la pompe ne fonctionnait pas, de toute façon, je ne dépends pas de sa pompe, de la pompe, je dépends de lui. Il est capable de me donner de l'eau sans le secours d'une pompe. Contrairement à cet homme qui ne savait quoi faire, nous, nous avons l'assurance. Qui est celui qui nous a laissé sa parole? Nous avons l'assurance qu'il a la puissance d'accomplir tout ce qui sort de sa bouche. Et Élie était fort, était animé de cette conviction. Et c'est comme ça qu'il n'a pas regardé aux circonstances. Il a dit, Seigneur, tu l'as dit, merci beaucoup mon Dieu, tout ce que je te demande, aide-moi à arriver jusqu'à destination. Et il arrive, résultat, les corbeaux lui apportent le pain et la viande le matin, le soir. Il arrive chez la veuve, et bien la veuve lui donne à manger, et par ce miracle, et bien la femme va aussi profiter et avoir et de la farine et de l'huile jusqu'au jour où la pluie est revenue. Mon frère et ma sœur, apprends à être là où Dieu te veut. Alors tu vivras des grandes choses comme Élie. Acclamons son nom. Voilà, nous allons prier. Demander au Seigneur de nous aider à vivre, à marcher dans un esprit d'obéissance, à être là où il nous veut. Car c'est seulement en restant là où il nous veut, mes amis, que nous pourrions porter du fruit, que nous pourrions expérimenter de grandes choses de sa part. Nous bénissons ton saint nom et nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, tu n'as pas changé ce que tu as été pour Élie. Eh bien, tu l'es pour nous aujourd'hui. Ta parole est puissante et efficace. Apprends-nous simplement à te faire confiance, à avoir toujours nos yeux fixés sur toi, à laisser ta parole, ô Dieu, le rhéma qui sort de ta bouche, susciter en nous la foi qui va nous faire entrer dans l'univers de miracles, comme pour Élie, Seigneur. Oh, merci pour tout. Oui, aide-nous à être là où tu nous veux, afin d'expérimenter de grandes choses de ta part. Merci Seigneur. Merci de bénir également ce moment, Seigneur, destiné à la collecte des offrandes, des dîmes et de toute autre forme de libéralité. Nous voulons par ce geste, Seigneur, t'exprimer notre obéissance à ta parole, mais nous voulons également par ce geste soutenir ton œuvre ici à la borne, mais aussi à travers la borne. Bénis ces paniers alors qu'ils vont circuler à travers la salle, mais aussi tout autour de l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Oui, on peut acclamer la parole du Seigneur. Merci.